Et oui, c'est l'heure philo. Deuxième rencontre ce soir, deuxième émission après Étienne Klein, André Comte-Sponville. C'est toujours Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission, c'est pas encore fâché, pleinement soutenu par Chantal Montagnier. Céline Guéribi est aux manettes. Et puis Djoubaka, c'est toujours lui qui a choisi la musique. L'indicatif est signé Yvan Tarlet.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
André Comte-Sponville, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc la troisième édition revue corrigée augmentée d'un dictionnaire philosophique que vous publiez au PUF. Il y a plus de 400 nouvelles entrées. C'était c'est un besoin, déjà, puisque c'est la troisième édition, c'est un besoin de faire évoluer comme ça sa pensée de la creuser depuis 12 ans. Finalement, vous avez changé aussi, finalement. Vous avez peut-être envie de parler des choses d'une nouvelle manière.
Oui, j'ai changé, mais surtout un dictionnaire philosophique, par définition, c'est une œuvre infinie. Parce que, au fond, presque chaque mot de la langue, en tout cas chaque mot un peu important de la langue, peut faire l'objet d'une réflexion philosophique.
Mais une définition n'est jamais stable ?
Écoutez, là, j'ai revu l'ensemble, donc maintenant il y a un peu plus de 2200 définitions, mais certaines étaient présentes dès la première édition, en 2001. Mais je l'avais commencé 10 ans plus tôt. Donc en fait, il y a 30 ans de travail. Là-dedans, j'ai pas fait que ça. J'ai fait d'autres livres aussi en cours de route. Mais en 30 ans, je pense que certaines définitions n'ont pas bougé du tout, n'ont pas changé, et que d'autres ont été assez profondément modifiées.
Alors si on prend deux mots, à titre d'exemple, misogynie et pornographie, on ne les traite plus aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans ?
Ah, je pense qu'effectivement, là je suis plus, parce que je ne retiens pas la date de chacun des textes que j'ai écrits, évidemment, mais je pense effectivement que ce sont des mots qui dépendent beaucoup de l'époque. Enfin, le sens des mots, et puis surtout leur portée, l'usage philosophique qu'on peut en faire, dépend beaucoup de l'époque. Par exemple, le mot harcèlement que j'ai rajouté pour cette édition, j'aurais pas pensé, il y a 20 ans, à le mettre dans mon dictionnaire, mais depuis qu'on parle beaucoup de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, ça m'a paru important d'en parler. Mais peut-être un mot d'abord, plus généralement, sur l'idée même de dictionnaire philosophique, puisque j'ai repris le titre de Voltaire, évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un dictionnaire philosophique, ça n'est pas la même chose qu'un dictionnaire de philosophie. Parce qu'un dictionnaire de philosophie, il y en a des dizaines sur le marché, et plusieurs sont excellents, mais un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet, bien sûr, mais qui lui reste en quelque chose extérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'un dictionnaire de philosophie, paradoxalement, n'a pas de philosophie. Si vous prenez le plus classique des dictionnaires de philosophie, le Lalande. Vous demandez quelle est la philosophie du Lalande? Il n'y a pas de philosophie du Lalande. D'abord, c'est une œuvre collective et qui parle de la philosophie en général. Et donc, un dictionnaire de philosophie, c'est un travail impersonnel, neutre, c'est une espèce de manuel et donc souvent quelque peu ennuyeux. Alors qu'un dictionnaire philosophique,
là,
il
n'a
pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur, il a la philosophie pour contenu. Mm-hmm. Et pas la philosophie en général, qui au fond n'est qu'une abstraction, mais une philosophie en particulier, celle de Voltaire dans le cas de son dictionnaire philosophique, la mienne bien sûr, dans le cas de mon propre dictionnaire philosophique. J'ajouterais pour finir que les dictionnaires de philosophie, ils se ressemblent un peu tous, alors que les dictionnaires philosophiques ne ressemblent à rien d'autre. Enfin, un dernier mot, des dictionnaires de philosophie, il y en a des dizaines, disais-je, des dictionnaires philosophiques, bizarrement, il n'y en a que deux. Il y a celui de Voltaire et le mien.
Et le vôtre, qui est né, André Comte-Sponville, de cet ouvrage de deux admirations, donc Alain et Voltaire. Le philologue belge Raymond Trousson, qui était aussi historien et essayiste, qui n'est plus aujourd'hui, justement à propos de Voltaire.
Pourquoi ce dictionnaire philosophique ? Voltaire n'est pas très chaud pour l'entreprise encyclopédique, parce qu'il la juge, en somme, peu efficace. C'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop cher. Au contraire, un dictionnaire maniable, quelque chose qu'on peut garder dans sa poche et lire en voyage, par exemple, voilà l'idéal. C'est évidemment ce qui va faire son succès. D'autre part, il y a aussi dans l'ordre alphabétique cet avantage que ça favorise une remarquable diversité. il ne lasse pas le lecteur. Il y a un article sur les anciens juifs, et puis un article sur la politique, et puis un article sur Jésus-Christ, et puis un article sur la torture, un autre sur la tolérance. Ça permet, au fond, une espèce de discussion par l'écrit avec le lecteur. C'est donc un livre qui porte. D'où le premier titre, Dictionnaire philosophique portatif.
Voilà, alors une pensée ondoyante et le lecteur finalement qui fait la moitié du boulot. C'est un petit peu ce que vous avez souhaité aussi.
C'est ce que dit Voltaire lui-même, c'est-à-dire qu'il a entrepris d'exposer sa philosophie par ordre alphabétique, c'est ce qu'il dit de lui-même, de façon brève, parce qu'en effet, il pensait que les évangiles avaient été aussi grosses que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le monde ne serait jamais devenu chrétien. Mmh. Et donc, il vise la brièveté. Alors, évidemment, j'ai un peu honte de faire ce parallèle, parce que maintenant, le mien augmenté fait 1400 pages.
C'est poches,
donc un très gros livre,
coutures,
et je m'en excuse auprès des lecteurs. Mais en même temps, il y a 2200 entrées, comme on dit, 2200 définitions. Ça veut dire que chaque définition fait en moyenne un peu plus d'une demi-page. Alors, les plus courtes font 2-3 lignes, les plus longues font 7 ou 8 pages, mais le plus souvent, c'est une page, 2 pages. Autrement dit, c'est un très gros livre, mais fait de petits textes. Et moi qui aime les formes brèves, parce que j'aime pas ennuyer le lecteur, j'ai bien changé de sujet souvent, j'ai pris un grand plaisir à faire ça. Alors, ce qu'il faut ajouter, vous avez raison d'évoquer mes deux modèles, donc il y a Alain, mais les définitions.
Les définitions, et ce qui n'a rien à voir avec le dictionnaire de Voltaire.
Hein, rien à voir, parce qu'Alain a fait vraiment un vrai recueil de définitions, alors que Voltaire appelle ça dictionnaire, mais une définit pratiquement aucun mot, alors que Alain a réussi à ériger la définition en genre littéraire à part entière. Il a fait, je crois, 164 définitions, le livre est inachevé, mais c'est 164 petites merveilles. C'est ça, au départ, qui m'a stimulé. Faire comme Alain, essayer de faire de la définition un genre littéraire et philosophique à part entière. Et puis, en cours de route, je fais cours à la Sorbonne, un cours de licence, je m'en souviens, et j'explique avec mes étudiants un texte du dictionnaire philosophique de Voltaire, que j'admirais évidemment, et ça a fait tilt, et l'idée d'arriver à faire un livre en prenant deux modèles aussi différents, d'un côté Alain avec des définitions très brèves, de l'autre côté le dictionnaire philosophique de Voltaire qui ne définit pratiquement jamais les mots qu'il utilise, il y avait une espèce de challenge qui m'a stimulé, et j'ai pris un grand plaisir à faire.
Mais
ça.
Mais cet exercice d'admiration, précisément, c'est stimulant, et d'ailleurs admiration, puisqu'il y a dans le dictionnaire le mot « yes », ça signifiait d'abord étonnement, et vous écrivez que l'étonnement, c'est le fondement de toute philosophie.
Ben ça, c'est ce que dit d'abord Platon, ce que redit Aristote,
et
ce que dit Montaigne, mais dans le français de Montaigne, Montaigne écrit « L'admiration est fondement de toute philosophie ». Parce que admiration au XVIe siècle, ça veut dire étonnement. Et donc, il ne fait là que reprendre l'idée de Platon et d'Aristote. Mais j'aime beaucoup ce changement de sens, parce qu'au fond, si on fait de la philosophie un jour, c'est parce qu'on a admiré follement les grands philosophes du passé, bien sûr. Et donc, l'admiration est une stimulation philosophique. Et puis, j'avais aussi un autre souci, c'est d'aider les gens à rentrer dans la philosophie. Parce que la philosophie est une discipline passionnante, mais parfois difficile, pour de bonnes raisons, de réflexion, d'abstraction, parfois pour de moins bonnes raisons. Ce qu'on appelle le jargon des philosophes. C'est vrai que les philosophes se sont donné un vocabulaire technique et que pour le lecteur lambda, ça fait un obstacle. Si bien que j'ai voulu, alors, en passant par exemple aux élèves de terminale ou aux étudiants en début d'études, mais aussi bien au grand public qui a envie de voir ce que c'est que la philosophie, de donner un vrai dictionnaire. Je donne d'abord le sens des mots, la façon la plus précise, la plus rigoureuse possible. Et puis après, dictionnaire philosophique, j'explique ce que je pense de la chose en question, vous voyez.
Mais ça veut dire qu'on apprend à philosopher plus qu'on apprend la philosophie, en fait.
Oui, c'est ce que disait Kant. On ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher.
André Comte-Sponville, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. On va marquer une pause avec Curtis Harding, Hopeful, c'est le titre de la chanson. C'est un manifeste soul lumineux qui est guidé par l'espoir. Ça aussi, c'est un joli mot. Sky, the lights will shine through to this blows by in the best.
past me. I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in the tongue. That's been corrupting no substance to be hidden from. Now we see roughly brought forth from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you stare at the heavens, you see the stars are rearranged. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered, thicker than soldiers, lighter, don't fret. Cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight. Because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy.
L'heure philo. Patricia Martin.
André Comte-Sponville est ce soir notre invité. Hopeful, c'était le titre de cette chanson. Le mot espoir figure dans votre dictionnaire entre espionnage et esprit. Mais enfin, ça, c'est un petit peu le hasard de l'alphabétique. L'espoir, c'est synonyme d'espérance. Et l'espérance, dans la théologie chrétienne, c'est une vertu. Qu'espérez-vous à partir du moment où, je crois l'avoir compris parce que vous l'avez dit publiquement, vous n'espérez plus Dieu puisque vous étiez croyant et vous ne l'êtes plus?
Dans les meilleurs moments de ma vie, je n'espère rien parce que le présent, le réel me suffit.
Vous suffit et vous comble.
Vous savez, le plus étonnant dans cette histoire-là, c'est qu'en effet, l'espérance est l'une des trois vertus théologales dans la théologie chrétienne. La foi, l'espérance, l'amour. Sauf que saint Augustin écrit, et moi ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça, que dans le royaume, au paradis, il y aura plus la foi, puisqu'il n'y aura plus lieu de croire en Dieu, puisqu'on sera en Dieu. Il n'y aura plus l'espérance, puisqu'au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Bref, dans le royaume, au paradis, il n'y aura que l'amour. Eh bien, j'ai envie de dire que pour l'athée fidèle que je suis ou que j'essaie d'être, le royaume, c'est ici et maintenant. Dans les bons moments de ma vie, j'ai plus besoin de croire en quoi que ce soit. Ce que je connais, ce que j'expérimente me suffit. J'ai plus besoin d'espérer quoi que ce soit. Ce que je vis me suffit.
Et puis,
dans les moins bons moments,
voilà.
Quand la peur Et là, l'espoir est là aussi, parce que ça, c'est la grande formule de Spinoza, que j'ai cité bien souvent. Dans l'éthique, Spinoza écrit « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. » Et donc, dès que j'ai peur, par exemple, un de mes enfants est gravement malade, bien sûr, j'espère qu'il va guérir. Et dès que j'espère quelque chose, j'ai peur que ça ne se produise pas, voyez. Et c'est pourquoi nous sommes toujours ballottés entre l'espoir et la crainte, comme dit Spinoza. Il faut l'accepter, ça fait partie de la condition humaine, mais il n'y a pas lieu pour moi d'ériger l'espoir ou l'espérance en vertu, parce que justement, l'espoir, l'espérance et donc la crainte qui va avec sont plutôt, comme disait là encore Spinoza, la marque de notre impuissance. Et donc, c'est pourquoi j'ai forgé le concept dans mes premiers livres de gai désespoir. Pas du tout le désespoir du suicidaire, du dépressif, mais au contraire, le gai désespoir de celui qui n'a plus rien à espérer parce que cette vie suffit à le combler.
Mais est-ce que vous diriez que vous avez en quelque sorte que vous pratiquez une spiritualité sans Dieu ?
Oui, tout à fait. J'en ai même fait un livre que j'appelais « L'esprit de l'athéisme ». C'est quoi la spiritualité ? Il y a bien sûr un article « Spiritualité » dans mon dictionnaire. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Vous savez que « spiritus » en latin, d'où vient bien sûr le français « spiritualité ».« Spiritus », ça signifie l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Et bien que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi aurait-il moins de spiritualité ? Alors la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif à l'absolu. Et bien que vous soyez croyante ou athée, vous ne pouvez pas vous regarder le ciel étoilé par une nuit claire, vous êtes au cœur de l'infini. Vous êtes, pour moi, pour lequel il n'y a pas d'autre absolu que l'univers, que la nature, vous êtes au cœur de l'absolu, vous êtes au cœur de l'éternité. Eh bien, cette expérience, cette espèce d'émotion qui n'est pas sentimentale, mais qui relève bien de la spiritualité, c'est une expérience spirituelle. Vous pratiquez la méditation, ce que je fais tous les matins, ou presque tous les matins.
J'allais vous le demander, vous le faites tous les matins.
La méditation assise, silencieuse, sans objet.
Vous êtes bouddhiste, vous
Non, je ne suis pas bouddhiste
du tout.
Je ne crois ni à la réincarnation, ni au karma, rien
mais
de tout ça.
Mais la méditation
en revanche,
vous va
la pratique de la méditation, assise, silencieuse, sans objet, ce que les Japonais appellent le zazen, c'est-à-dire littéralement le zen assis,
là
ça m'éclaire.
Là aussi, il est question du zazen dans le
Oui, bien sûr, il y a un article zen, un article zazen, un article méditation, parce que moi je dis souvent la méditation, en l'occurrence je la pratique le matin, c'est un peu comme une douche de silence que vous prendriez chaque matin. Tout d'un coup, il n'y a plus de mots. On arrête le verbiage intérieur incessant, on arrête d'argumenter, de se défendre, de se justifier, de rationaliser. Comment on fait ? Simplement, on est assis, immobile, et on reste attentif à sa respiration. Vous savez, les maîtres zen disent « quand on pense, on ne perçoit pas ». Quand on perçoit, on ne pense pas. Autrement dit, concrètement, et ça, on peut l'expérimenter tous les jours, tant qu'on est attentif à sa respiration, il est impossible de suivre une idée. Alors bien sûr, les idées vont revenir, les soucis, les angoisses, eh bien, vous vous recentrez sur votre respiration. Et le simple fait d'être un avec son corps, d'habiter le présent, c'est-à-dire l'éternité, parce que pour moi, l'éternité n'est pas autre chose qu'un... D'ailleurs, c'est la définition traditionnelle. Qu'est-ce que l'éternité ? Saint Augustin répond, l'éternité, c'est un présent qui reste présent. Eh bien, je vais vous dire, le présent reste présent par définition, puisqu'il n'y a rien d'autre. Eh bien, ces exercices spirituels, là, je prends l'exemple de la méditation, on pourrait en prendre d'autres.
Chasser la pensée, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, Étienne Klein, ce même micro, disait la semaine dernière que lui, il était incapable de méditer parce que chasser une pensée, pour une fois qu'on avait une pensée, c'était formidable, il fallait la saisir et ne pas la chasser.
Eh bien, moi, je crois au contraire qu'il est très bon.
Comme je sais que vous êtes copain, vous pouvez lui répondre.
Il est un ami très, très cher, mais il est très brillant, mais il est très bon de suivre ses idées quand elles en valent la peine. Celle d'Étienne valent tout à fait la peine d'être suivi, il est bon aussi parfois d'arrêter de penser, d'être seul, silencieux, face au réel, face au présent qui passe et qui dure, qui change et qui continue. Et voilà, mais ça peut être simplement, vous faites une promenade.
Oui. La marche.
Et
ça,
le moment où vous ne désirez rien d'autre que le pas que vous accomplissez au moment où vous l'accomplissez. Vous désirez ce que vous faites ce que vous désirez, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Mais le bonheur en acte, parce que la méditation, c'est pas s'asseoir pour se contempler l'âme ou le nombril indéfiniment. Au contraire, il s'agit plutôt d'être un avec son corps, avec sa respiration, d'être un avec tout, à la limite, puisque nous sommes, encore une fois, au cœur de l'univers, au cœur de l'absolu, et c'est vrai que l'Orient a beaucoup à nous apprendre de ce point de vue. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, de croire au karma ou à la réincarnation, ce qui, pour un occidental, me paraît tout à fait saugrenu comme croyance. Non, non, moi je suis résolument d'Occident, résolument rationaliste, matérialiste, qui plus est, à la façon d'Épicure ou de Démocrite, mais le fait d'être athée, d'être matérialiste, ça n'empêche pas de se servir de son esprit. C'est quoi l'esprit ? C'est le pouvoir de penser, de vouloir, d'aimer, de rire, au sens où on fait un mot d'esprit. Ben voilà, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour expérimenter en soi le pouvoir de penser, de vouloir, d'aimer, de connaître et de rire.
Ni de croire aux péchés capitaux, on n'a pas le temps d'en parler, parce que là, je vois que leur film, mais on voit bien, il y a une entrée aussi, péché capital, ça colle plus du tout avec notre époque, et vous proposez d'autres péchés capitaux,
voilà, je propose
comme la suffisance, le fanatisme, l'égoïsme, enfin, vous dites que les originaux n'ont plus lieu
d'être. Oui, parce
d'être.
Que la gourmandise, par oui. exemple, la concupiscence, ou oui. la luxure, je crois que c'est le oui, mot qu'on oui. utilise, comme disait mes amis, on dit un côté doigt pris dans le pot de confiture. C'est comme le gamin qui se fait voler en train de picorer de la confiture. Non, non. Par contre, les vrais péchés capitaux, effectivement, c'est l'égoïsme, c'est la cruauté, c'est la veulerie, c'est le fanatisme. Voilà, autrement dit, nous avons d'autres diables à fouetter que la luxure ou la gourmandise.
Alors, vous aimez rendre hommage, par exemple, je ne parle pas de ce dictionnaire-là en particulier, mais on sait que Louis Althusser a été un ami à vous, que Jacques Derrida a été votre professeur, que je crois que Marcel Conge vous a suivi votre doctorat, c'était lui votre maître
de... C'était mon directeur de thèse. C'est aussi un très cher ami. C'était d'abord mon professeur.
Alors, la philosophie, selon Marcel Conge.
J'admets que l'homme est un grand sujet, que les sujets moraux sont des sujets importants. Seulement, voilà, la philosophie, c'est pas cela. La philosophie, c'est la métaphysique. Et la métaphysique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons affaire au réel, que nous nous posons la question au sujet de la totalité de ce qui mérite d'être dit réel. Mais qu'est-ce qui mérite d'être dit réel ? C'est là le problème. Et c'est là que, justement, tous les philosophes diffèrent. Parce qu'ils s'accordent pour dire que ce qui est vraiment réel, c'est ce qui est éternel. Mais qu'est-ce qui est éternel ? Platon nous dit, ce sont les essences. Aristote, ce sont les formes. Démocrite, ce sont les atomes. Descartes nous dit, c'est Dieu. D'autres nous disent, c'est l'esprit. Et ainsi de suite. Autrement dit, nous avons le réel commun, et puis vous avez les réels philosophiques. Et il y a autant de réels philosophiques qu'il y a de métaphysiques.
Quel est le vôtre, André Comte ?
Le même que celui de Marcel Conge, à savoir la nature. L'ensemble de tout ce qui existe, on n'en a pas forcément la même conception, évidemment, on n'a pas la même philosophie, mais nous sommes l'un et l'autre des naturalistes au sens philosophique du terme, c'est-à-dire au sens où pour nous, il n'existe rien d'autre que la nature, l'univers, disons, et donc le mot surnaturel, qui est bien sûr dans mon dictionnaire, mais désigne des choses inexistantes. Voilà. Être naturaliste, c'est penser qu'il n'existe rien de surnaturel, et c'est quelque chose que Marcel Conge et moi partageons.
Comment est-ce que vous vous êtes construit ? Bon, il y a vos maîtres spirituels, mais avant, il y avait votre famille. Est-ce que vous avez puisé là une force ou un chagrin, finalement ?
Alors, j'ai puisé les deux. Un chagrin dans le contact avec ma mère, que j'aimais passionnément, mais qui était malheureuse et dépressive. C'est pas la même chose, mais elle était les deux.
Et qui a fini par décider de ne plus vivre.
Et puis, la force que j'ai prise dans la haine de mon père. Alors, maintenant, je lui ai pardonné depuis longtemps, mais c'est vrai que toute mon enfance s'est passée, parce que j'avais le sentiment que si ma mère était malheureuse, c'était à cause de mon père. J'ai compris, bien sûr, depuis que c'était plus compliqué que ça.
Et qu'il
toujours.
A changé lui-même lorsqu'il a eu une autre femme.
Oui, c'est devenu un mari admirable quand il a épousé une autre femme, une femme merveilleuse, qui elle est toujours vivante, que j'aime
infiniment.
C'est
pas facile pour le fils de la première femme.
Mais écoutez, je vais vous dire, ma mère était difficile à aimer. Je l'aimais passionnément, mais elle était difficile à aimer. Mon père était facile à haïr. Et pour un fils, c'est un beau cadeau d'avoir un père facile à haïr. Vous savez ce que disent les philosophes ? On ne s'oppose qu'en s'opposant. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup de nos jeunes hommes aujourd'hui, ils ont un peu du mal parce que leur père est devenu tellement aimant, tellement sympa, tellement cool, tellement câlin, tellement tendre, qu'au fond, le malheureux gamin, il a deux mamans. Maman et papa, puisque papa est aussi aimant, aussi
mais
tendre.
Mais vous vous êtes réconcilié avec papa
donc,
avant
coup,
qu'il ne s'en aille.
Quand on a deux mamans, on n'a plus de raison de tuer le père.
D'accord.
Comme dit Freud. Eh bien moi, j'avais d'excellentes raisons de tuer le père, réel ou fantasmatique, selon les cas, vous voyez. Mais ça m'a, j'ai puisé une force, voilà, je crois, s'opposer dans son enfant, dans son adolescence, à son père, pour un garçon, c'est une force. Je ne dis pas que c'est la seule voie, on peut devenir très fort avec un père qu'on aime énormément, hein. Mais moi, ça a été mon chemin. Et j'ai essayé d'inventer quelque chose qui me permettent de tenir bon à la fois sur le malheur de ma mère et l'opposition à mon père. Et donc, si j'ai été amené à philosopher, là, le chagrin l'emportait sur la force. Je dis souvent que si j'ai fait de la philosophie, c'est parce que j'étais peu doué pour la vie, peu doué pour le bonheur. Et donc, il a bien fallu que j'essaye de travailler sur moi-même, sur ce que je savais faire de la pensée, pour essayer de rendre la vie acceptable, supportable, heureuse, parfois. Mais moi, ça n'allait pas de soi.
Vous dites ça avec un très joli sourire et des yeux pétillants, mais peu doué pour le bonheur, dites-vous, d'accord, mais vous avez quand même eu des parents qui ne s'entendaient pas, une mère dépressive qui a fini par se suicider. Plus tard dans la vie, vous perdez un enfant, votre premier enfant, votre petite fille qui meurt bébé. La vie vous a pas épargné quand même, donc c'est compliqué.
Non, bien sûr, mais le fait est, mais je...
Est-ce que quand on est philosophe, on apprend de ça, on est moins démunis, ou est-ce que finalement on l'est tout autant que...
La philosophie ne protège pas contre le malheur, mais elle aide malgré tout à prendre du recul, et surtout quand le temps passe, quand on est au fond de la tragédie, on pleure comme tout le monde, évidemment. Peut-être la philosophie aide malgré tout à prendre du recul, à se décentrer un peu. Écoutez, dans les pires moments que j'ai vécu, dont certains que vous évoquez, l'une des choses, je dirais pas qui me consolait, mais qui malgré tout mettait un peu la souffrance à distance, je me disais, mais au fond, que cette horreur tombe sur toi ou sur un autre, qu'est-ce que ça change? Il se trouvait qu'à ce moment-là, ça tombait sur moi, mais comprendre que le fait que ça tombe sur vous ou sur un autre, c'est pas ça l'essentiel, l'important c'est que l'horreur reste l'horreur, eh bien, bizarrement, ça me faisait du bien, parce que ça me mettait un petit peu à distance de moi-même, ça faisait rentrer ma souffrance de l'époque dans l'infinie souffrance humaine, puisque toute vie est souffrance, comme dit le Bouddha, mais après tout le travail de la philosophie, mais là le Bouddha pour le coup en serait d'accord, c'est de transformer cette expérience de la souffrance en acceptation, en libération, et quand on y parvient, en joie ou en bonheur, voilà. Il s'agit au fond toujours de transformer la difficulté de vivre en joie de vivre. Et là la philosophie y aide. Pas suffisamment quand on est au fond du malheur, évidemment. Là, il n'y a que l'horreur, il n'y a que les larmes. Mais dès que la souffrance s'estompe un peu, voilà, transformer la difficulté de vivre en joie de vivre, je crois que c'est le vrai chemin de la philosophie.
La joie, c'est l'apaisement.
C'est plus que l'apaisement, parce qu'on peut être apaisé sans être joyeux. La joie, c'est une intensification d'existence, comme disent. Être joyeux, c'est exister plus.
Exister
il y a des moments
plus,
où on se sent tellement vivant, tellement existant, qu'on voudrait que ça dure indéfiniment. Et puis, il y a des moments où, au contraire, on existe moins. C'est ce qu'on appelle la tristesse. Et évidemment, comme dit Montaigne, avec son bon sens génial, il s'agit d'augmenter la joie et de réduire autant qu'on peut la tristesse. C'est ça le chemin de la vie. La philosophie n'y suffit pas toujours, mais la philosophie parfois y aide.
Kamuna kadunyaro kamasini fururu lada katerembalu ni masi sont à nous.
Sekouba Bambino sur France Inter. C'était samedi dernier sur France 2, dans On est en direct, le Premier ministre Jean Castex.
Nous gérons cette crise, je le pense, de façon la plus sérieuse possible. C'est-à-dire en protégeant nos concitoyens et avec des objectifs qui sont clairs. Il y a un protocole sanitaire qui est strict. La rentrée, je surveille ça comme le lait sur le feu. La rentrée, pour l'instant, s'est déroulée de manière tout à fait satisfaisante. Donc on a devant nous la vaccination de ces enfants. On a un protocole sanitaire qui est strict, mais qui permet à la scolarisation des enfants de se dérouler normalement. Vigilance.
Vigilance, donc la crise dont il est question, évidemment, on l'aura deviné, c'est la crise du Covid. Vous avez beaucoup, André Comte-Sponville, dénoncé l'obsession qui a été la nôtre, peut-être une obsession collective, autour de ce Covid. Vous trouvez qu'on en a trop fait ?
Oh ben, beaucoup trop, oui, beaucoup trop. D'abord, la peur m'a surprise parce que, je l'ai dit, le premier entretien que j'ai accordé à une de vos consoeurs sur la Covid, au tout début du premier confinement...
Vous dites la Covid, écoutez, vous. Moi, vous arrivez à dire la Covid. Moi, j'y arrive pas, je dis toujours le Covid.
Peu importe, bon, peu importe, d'accord. Mais l'Académie française suggère le féminin, donc va pour le féminin. Mais je disais à votre consoeur, écoutez, j'ai deux nouvelles à annoncer à vos lecteurs. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. La bonne, c'est que l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que de la Covid-19. Autrement dit, le fait que nous soyons mortels, c'est quand même pas un scoop, si vous voulez.
Il fallait bien sûr. Tout dépend à quel âge on meurt et tout dépend de quoi on meurt.
Il semble que la Covid faisait mourir plutôt des vieillards. Alors comme j'ai 69 ans, bien tassé, j'en fais partie, si vous voulez. Mais c'est quand même moins grave une maladie qui tue essentiellement des gens qui ont plus de 65 ans qu'une maladie qui tuerait des enfants ou de jeunes adultes.
Ou que la peste qui a tué la moitié de la population européenne.
La mortalité n'était pas non plus telle. On a perdu. Les démographes ont calculé que nous avons perdu collectivement 6 mois d'espérance de vie. Alors, c'est triste, 6 mois d'espérance de vie en moins. Mais n'oublions pas que depuis la libération, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie. Les gens de ma génération ont gagné 20 ans d'espérance de vie. Et puis patatras, il y a un virus, on perd 6 mois. C'est quand même pas une raison de s'affoler ou de crier à la fin du monde ou à la fin de la civilisation. Et donc cette espèce d'invasion par la peur, ça m'a paru mortifère. Et puis surtout, je craignais que les mesures prises contre la pandémie, notamment les confinements, qui forcément économiquement allaient coûter extrêmement cher, ça soit les jeunes qui en soient les victimes.
Voilà, et priorité à la jeunesse.
Au fond, qu'on sacrifie deux générations de jeunes, les enfants et les ados d'un côté, les jeunes adultes de l'autre, à la santé de leurs grands-parents. Ce que je trouve proprement inouï, ça n'est jamais arrivé. Et donc là où tout le monde répétait la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus vieux, en l'occurrence, moi je disais, et je dis toujours, la priorité des priorités, ce sont les jeunes en général, et les enfants en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas respecter les gestes barrières, qu'il ne fallait pas respecter le confinement. J'ai respecté les deux strictement, mais je ne pouvais pas adhérer à ce discours obsédé qui risquait finalement de sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort. Et donc j'ai rappelé la formule de Montaigne dans les essais. Montaigne écrit « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et tant que nous n'accepterons pas d'être mortels, nous allons vivre perpétuellement dans l'angoisse. Et voilà.
Vous trouvez nous vivons dans une société qui n'accepte pas que nous soyons mortels ?
Nous vivons dans une société de la peur. Alors, ce qui me sidère le plus, c'est que, à la peur de la Covid, contre laquelle j'ai protesté, succède maintenant une peur tout aussi démesurée du vaccin. Voire de la dictature. On est passé d'une peur à une autre. Et moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid, je n'ai pas peur du vaccin. Je suis bien sûr vacciné, j'appelle tout le monde à le faire. Je suis réservé en revanche sur le pass sanitaire parce que moi je suis pour le vaccin parce que c'est bon pour la santé, du moins c'est ce que disent les médecins et je leur fais confiance. Je suis réservé, voire très critique sur le pass sanitaire parce que c'est mauvais pour la liberté, c'est mauvais pour l'égalité, c'est mauvais pour la fraternité. C'est mauvais pour la liberté, puisque ça revient, au fond, à rendre le vaccin quasi obligatoire, et puisque ça empêche ceux qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass sanitaire, de voyager, d'aller au restaurant, au concert, voire de travailler, pour certains. C'est donc mauvais pour l'égalité, puisque c'est une mesure de discrimination.
Enfin, la liberté des uns s'arrête là où...
Non, c'est une mesure de discrimination, puisque...
Vous êtes plié avec beaucoup de gentillesse à la... Tout à l'heure, il y a une hôtesse qui est venue vérifier votre passe sanitaire.
Moi, je suis vacciné, j'ai le passe sanitaire, il n'y a aucun problème.
Mais vous lui avez...
Pourquoi je parle de discrimination? Que des gens qui n'ont violé aucune loi, hein, puisque le vaccin n'est pas obligatoire. Que des gens qui n'ont violé aucune loi soient interdits de théâtre, de cinéma, de concert, de train, voire de travail... Pour certains, je ne peux pas l'accepter sereinement. Enfin, c'est mauvais pour la fraternité, puisque du coup, ça crée des divisions, des tensions, y compris au sein des familles. Vous avez vu ces scènes où des gens se disputent parce que les uns sont vaccinés, d'autres pas, les uns ont le pass sanitaire, d'autres pas. Et donc, je suis vacciné, je suis pour les vaccins, mais je suis inquiet quand on voit avec quelle facilité les gens sacrifient la liberté, l'égalité, la fraternité au seul idéal de santé.
Alors vous exprimez, on l'a entendu sur des sujets brûlants, André Comte-Sponville. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrées dans votre dictionnaire qui en sont la preuve. Islamisme, populisme, précarité, bioéthique, antisémitisme. Et pourtant, vous n'aimez pas l'idée de l'intellectuel ou du philosophe engagé. Vous n'êtes pas sartrien.
Non, pas de ce point de vue, parce qu'un intellectuel engagé, au sens où Sartre l'était, au fond, c'est un intellectuel qui soumet sa pensée à une cause déjà constituée par ailleurs. Jean-Paul Sartre, compagnon de route du Parti communiste. Mais du même coup, forcément, il va y perdre une bonne partie de sa liberté d'esprit.
Mais vous aussi, vous avez été communiste.
Oui, je l'ai été, mais je ne le suis plus, justement. Et donc, je sais ce que c'est que soumettre sa pensée à un groupe, soumettre sa pensée à une cause. Vous pouvez raconter... Une anecdote, quand Louis Althusser m'a reçu, après que j'ai été reçu à Normal Sup, donc il recevait tous les étudiants philosophes, tous les normaliens philosophes, il me demande quelles sont vos positions philosophiques. Je lui ai répondu, je suis membre du Parti communiste français. Maintenant, j'en ai honte. Non pas d'avoir été membre du Parti communiste français, qui en valait bien d'autres, mais d'avoir pris cette appartenance pour une position philosophique. Bah, c'est ça, le philosophe engagé. À l'époque, mais j'avais 19 ans, j'étais un intellectuel engagé. Je ne suis plus. Maintenant, je me définis comme intellectuel citoyen. Citoyen, parce que je participe, je viens de le faire à l'instant, au débat public, dans les limites de mes compétences, de mes opinions, mais en gardant ma liberté d'esprit, je refuse de soumettre ma pensée à quelque cause constituée par ailleurs que ce soit, à quelque groupe ou parti que ce soit.
Alors vous avez forgé un concept nouveau, qui est l'institutionnel. Allez-y, dites-le parce que j'y arriverai pas.
L'insistentialisme.
C'est quoi? C'est l'anti-existentialisme.
C'est le contraire de l'existentialisme. Il faudrait lire le texte, mais exister au sens existentialiste du terme, c'est être toujours dehors, toujours transcendant, s'arracher à soi-même perpétuellement. Alors, ce que j'appelle l'insistentialisme, c'est être dans. C'est
dedans.
Non pas s'arracher, mais c'est une philosophie non pas de la transcendance, mais de l'immanence. C'est, au fond, une autre façon de reprendre le concept de Spinoza, que Spinoza appelle le conatus. C'est quoi le conatus? Ça veut dire effort en latin. Le conatus, c'est l'effort de tout être pour persévérer dans son être. Autrement dit, être, c'est insister, c'est continuer à être, c'est insister et c'est résister. Et donc, c'est une philosophie de la nature, je parlais du naturalisme tout à l'heure, c'est une philosophie de l'immanence, c'est une philosophie de l'énergie, du courage, du combat.
C'est une métaphysique matérialiste, d'une certaine façon.
Je trouve que moi, je suis matérialiste, et donc ma métaphysique est matérialiste. C'est quoi le matérialisme? Pour le dire en deux mots, il y a bien sûr un article matérialiste dans mon dictionnaire. Il y a deux sens du mot. Il y a le sens trivial. Être matérialiste, au fond, c'est ne pas avoir d'idéaux. C'est ne vivre que pour les plaisirs matériels, la bouffe, le sexe, le confort. C'est bien sûr pas mon cas, puisque pour tout philosophe, la sagesse est son idéal. Mmh. Alors que être matérialiste, au sens philosophique du mot, c'est penser que tout ce qui existe est matière ou produit de la matière. Autrement dit, c'est penser qu'il n'existe pas d'être immatériel, et spécialement pas de Dieu immatériel, ni d'esprit ou d'âme immatérielle. Autrement dit, concrètement, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en moi, ce n'est pas une âme ou un esprit immatériel, c'est mon cerveau, qui bien sûr est aussi matériel que n'importe quel organe, plus
ça
complexe.
Ça n'empêche pas d'avoir une éthique, une esthétique.
Et ça n'empêche bien sûr pas d'avoir une morale, une éthique, une spiritualité. On en parlait tout à l'heure. Mais ça veut dire quand même quelque chose, c'est que si c'est mon cerveau en moi qui pense, la mort de mon cerveau sera ma disparition définitive. C'est donc renoncer à toute vie après la mort et donc assumer une dimension de désespoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, c'est simplement le fait qu'on va tous mourir. Et là encore, le geste de la philosophie, spécialement des philosophes matérialistes, c'est de transformer ce désespoir en bonheur.
Au nombre des penseurs donc pour lesquels vous avez une certaine prédilection, il y a Claude Lévi-Strauss, anthropologue, ethnologue français dont l'influence a été considérable, on le sait, dans le monde entier.
Entre tous les peuples que nous appelons de façon si incorrecte primitifs, il y a un point commun et un seul. Ils sont restés jusqu'à une date récente en dehors du mouvement qui a créé cette civilisation mécanique qui caractérise notre monde occidental des deux côtés de l'Atlantique. Ce caractère commun ne les définit pas de façon positive. C'est au contraire un critère négatif qui nous apprend ce qu'ils ne sont pas, mais ne nous dit rien sur eux. En vérité, on pourrait dire que deux sociétés primitives, choisies au hasard, ont toute chance de différer entre elles autant et peut-être même davantage que chacune d'elles ne diffère de notre propre société qui les confond cependant dédaigneusement sous le même terme de primitive.
C'est vraiment intéressant ce que dit Lévi-Strauss, parce que l'humanité se décline au pluriel, mais la philosophie se doit d'être universelle, enfin.
Elle est universelle dans son principe, dans sa vision, parce qu'il y a des philosophies différentes.
Vous disiez tout à l'heure, par exemple, en Orient, c'était autre chose aussi.
Mais chaque philosophie tend à une forme d'universalité. Mmh. Oui, parce que je crois que la vérité est universelle. C'est-à-dire le fait que vous et moi, en ce moment, nous soyons ensemble. Mmh. Il n'y a pas un seul point de l'univers où ça ne soit pas vrai. On dit c'est vrai dans tous les points. Alors, bien sûr, la connaissance que vous et moi, nous sommes ensemble, elle est bien plus réduite. La connaissance, c'est pas la vérité. Il y a quelques milliers de personnes qui nous entendent. S'ils savent que ce qu'on est en direct, ils en concluent que vous et moi, nous sommes ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, c'est faux. Et donc, dès qu'on essaye de penser en vérité, on essaye de penser l'universel. Alors bien sûr, comme on ne connaît que très peu de vérité, on est séparé de l'universel au fond par tout ce que nous ignorons. Mais ça veut dire que cette dimension d'universalité qui est essentielle à la philosophie, il faut la maintenir. Vous voyez, autant je suis relativiste pour ce qui est des valeurs. Autrement dit, la morale des uns n'est pas la morale des autres, ça dépend des cultures, comme dirait Lévi-Strauss. Autant la vérité ne dépend pas des cultures. Que la Terre tourne autour du Soleil, c'est vrai. Quelle que soit la culture des temps, il y a des cultures où on le sait, il y a des cultures où on l'ignore. Mais dans les cultures où on l'ignore, il n'en est pas moins vrai que la Terre tourne autour du Soleil. Ne confondons pas la vérité et la connaissance. Et donc, être humaniste, au fond, c'est assumer cette dimension d'universel qui est en nous, Être relativiste s'agissant des valeurs, c'est accepter que les cultures, les morales, les points de vue puissent être différents. Et c'est pourquoi je me définis, alors c'est un peu un paradoxe, mais qui caractérise ma position comme un relativiste universaliste.
C'est difficile de se définir soi-même, non ?
Écoutez, non, parce que ça fait partie de la philosophie, non pas se définir soi-même comme individu, ça serait plutôt là un travail de littérateur, mais par contre définir sa pensée, ça veut dire penser, au fond. Et c'est pourquoi peut-être j'aime tellement les dictionnaires en règle générale, et les dictionnaires de philosophie ou les dictionnaires philosophiques en particulier, parce que ça permet de définir sa pensée en définissant les mots, et dans la multiplicité indéfinie des mots que la langue nous offre, si vous voulez. Plutôt que faire ce livre de 1400 pages, si c'était un traité, ça serait illisible. Vous voyez, mais sur 2200 et quelques mots différents, il y a une espèce de jeu de l'esprit, mais qui est très important, parce qu'en même temps, pour penser, on a besoin de mots. Il n'y a pas de pensée sans langage, et donc il n'y a pas de pensée rigoureuse sans définition.
Dérives urbaines dans la ville cannibale. Françoise Breu sur France Inter.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée, sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule, le flot flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques, les flics semaient le chaos avec leur sirène.
André Comte-Sponville, la ville est cannibale, vous pensez comme Françoise Breu ?
Non, mais la ville est, comment dire, elle est fatigante. Voilà. Mais vous savez, on vit une époque, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, où la majorité de la population du monde vit en ville.
En ville, bien sûr.
Il y a 100 ans, il y avait 95% de la population vivait à la campagne. Et donc, notre avenir sera urbain. Ça n'empêche pas d'aimer la campagne. J'ai la chance d'avoir aussi une maison à la campagne, en Normandie. Mais en même temps, la ville est un espace de liberté formidable, parce que c'est l'anonymat, de rencontres formidables, d'intensité vitale formidable. Vous voyez, moi j'aime les villes et j'aime la campagne, au fond j'aime les deux. Alors, je sais plus quel humoriste suggérait de bâtir les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur. C'est évidemment une boutade, mais je crois que les deux sont précieuses, au fond. D'abord, il y a des villes bouleversantes. Paris est une ville bouleversante, mais c'est vrai aussi de Prague, de Londres, de Barcelone.
Mais le voit-on quand on vit dans une ville ? Pardon ? Le voit-on quand on vit dans une ville ? Voit-on qu'elle est bouleversante ? Pas forcément.
Pas forcément, c'est pour ça qu'on voyage, pour voir d'autres villes. Mmh. Moi, je me souviens de mon émerveillement quand j'ai découvert Prague. En plus, il y a du temps où Prague est encore une ville communiste, donc conservée dans le communisme comme dans le formol. Elle n'avait pas bougé depuis 50 ans. Et tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était qu'être européen. Il y a un article « Europe » dans mon dictionnaire, mais c'est la ville où Mozart a été le plus aimé, rien que ça. Et puis on voit comme c'est beau ce baroque d'Europe centrale, vous voyez. Mais j'ai adoré Madrid, Florence, Venise, ce sont des merveilles.
Mozart, Schubert, ça pourrait être aussi un autre exercice d'admiration.
Oui, voilà, et en même temps, ça n'empêche pas d'aimer la campagne. Ouais. Je crois que c'est une formidable chance que nous avons d'avoir des villes si vivantes, si intenses, si fatigantes parfois, et des campagnes si belles et reposantes.
De quoi seriez-vous le plus fier ? De quoi êtes-vous le plus fier ?
Écoutez, c'est une question embarrassante que je ne me suis jamais posée.
Vous allez vous la poser maintenant.
Oui, mais écoutez, je pense que je répondrai, parce que je pense bien sûr à mes enfants, mais ce n'est pas le mot de fierté qui me revient, c'est une question d'amour, c'est pas une question... Je trouve qu'être fier de ses enfants, c'est toujours quelque chose d'un peu dérisoire. Non, on peut être fier au fond que de ce qu'on a fait soi-même. Alors j'ai fait des enfants, mais pas tout seul, et vous savez qu'on a peu de maîtrise sur le résultat. Non, je pense que je suis le plus fier de mes livres, finalement. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Enfant, je voulais écrire, c'est ce que j'ai fait, et je suis fier de ces livres, et même, je vais vous le dire naïvement et un peu bêtement, je suis fier de ce dictionnaire philosophique.
Dont le dernier mot commence par Z, vous le connaissez ?
Zététique.
Zététique, alors qu'est-ce que c'est que la zététique ?
La zététique, c'est une forme de scepticisme, au fond c'est un autre mot pour évoquer le pyrrhonisme, c'est-à-dire l'idée que nous n'avons accès à aucune certitude. Et c'est pourquoi on n'en a jamais fini de penser. Et donc c'était pas mal de terminer un dictionnaire philosophique par un mot qui nous rappelle qu'on n'a jamais fini de penser. Alors qu'en même temps, il y a un moment où il faut arrêter de parler. Voilà, il y a aussi ce que Marcel Conce, à propos de Piron, appelle une espèce d'ironie vis-à-vis du discours, je dirais plutôt d'humour vis-à-vis du discours, comprendre qu'au fond, ce dont on parle, ce n'est pas un discours. Voilà. Parler pour parler, c'est le bavardage. Parler pour se taire, c'est le véritable discours. Vous savez, entre amis, quand il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qu'on n'a pas dit, un mensonge, tout d'un coup, il y a un malaise. On ne peut même plus être silencieux ensemble parce qu'il y a un malaise. Alors on parle pour cacher le malaise. Sauf si l'un des deux dit à l'autre, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on parle. Et on vide, on purge le conflit, le problème. Et à nouveau, on peut habiter ensemble le même silence, sans malaise, sans gêne. Vous voyez, on dit parfois qu'un ami, c'est pas quelqu'un à qui on peut parler. On peut parler à un inconnu dans un train. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut se taire. Eh bien, je crois que tous les mots de la langue, tous les discours, y compris de la philosophie, visent au fond à nous permettre d'habiter le silence. Voilà, la philosophie était une certaine qualité de discours. Ça se fait avec des mots et des raisonnements, comme disait Épicure. La sagesse, c'est une certaine qualité de silence. La philosophie, c'est un travail. La sagesse, c'est un repos. Et la philosophie n'a de sens que dans la mesure où elle nous rapproche, au moins un peu, au moins en partie, de la sagesse.
Merci beaucoup, André Comte-Sponville. C'est une belle fin. Donc, ce dictionnaire philosophique, 3e édition, est paru aux éditions du PUF. Merci à vous.
Merci à vous. Bonne soirée.